dernier chapitre autour de l'image, l'imaginaire collectif, parce que la photo est souvent une pratique individuelle. Enfin, en tout cas, moi, c'est la perception que j'en ai. Donc, je voulais savoir comment vous la ramenez un imaginaire plus collectif.
Ben, on se nourrit aussi de ce qu'on voit, on se fait pas tout seul. Donc on va se nourrir des images des autres et des affinités aussi photographiques ou des personnes. Si moi j'ai trouvé que l'autre, attention, je mets des grands guillemets dans tout ce que je veux dire, si j'ai trouvé que l'autre a une photographie un peu plus pauvre, il y a des grands guillemets partout, et bien je vais avoir tendance à aussi à lui donner aussi mon regard sur la chose. Après, il en fait ce qu'il en veut, mais moi on m'a donné des photographes comme Omar Boukandil que je vais voir de temps en temps là aux ateliers de Saint-Cyprien, exactement, qui je vais voir pour avoir son retour. Parce qu'il est à Toulouse, et donc j'ai son retour direct sur ma photographie. C'est moi qui ai fait les photos, mais je suis prêt à entendre ce que quelqu'un d'autre va me dire, ce que lui perçoit, ou ce que l'autre perçoit de ma photo, ou comment ça pourrait être différemment. Donc c'est à moi, après, d'entendre ce qu'il a à dire, d'essayer, si j'ai envie, de voir ce qu'il est en train de me dire, et ça me va ou ça me va pas, mais en tout cas c'est voilà, on se nourrit les uns les autres, et ça c'est aussi une approche qui me plaît dans la photo, c'est-à-dire aussi pas dire fais comme ci, fais comme ça, ou tu devrais faire comme ci, non, c'est avoir un retour d'un regard autre, et ça c'est une grande chance qu'on a ici.
C'est vrai que la photo ça reste une pratique très individuel, très solitaire, on va dire. C'est-à-dire, on est beaucoup avec les gens, mais on n'aime pas trop quand il y a un autre photographe à côté de nous, quand on est en train de travailler. Donc, c'est dans la pratique, c'est solitaire, mais après, on a besoin d'être dans une grande famille. Et donc là, effectivement, on est dans la famille de ceux qui écrivent en images. Comme j'imagine dans le monde de la littérature, enfin, chaque univers d'expression a des collectifs. Souvent, les collectifs photographiques ne durent pas longtemps parce qu'on est quand même rattrapé par ce côté individualiste à un moment donné qui fait des tensions. Mais il y a des expériences collectives qui durent plus ou moins longtemps et qui du coup amènent les personnes à travailler sur un sujet, sur un thème, sur une approche. Mais on se reconnaît tous, je crois. C'est pas non plus le monde de la photo, c'est pas le monde de l'art contemporain aussi. Enfin, la photographie, c'est quand même un art qui a été longtemps dénigré et non reconnu comme un art. Donc, il n'y a pas non plus trop de prétention. Ça fait longtemps débat parce que on considérait que c'était juste une reproduction mécanique de la réalité et qu'il n'y avait pas d'écriture subjective. Donc moi après j'ai découvert le collectif plutôt scientifique, donc des scientifiques qui utilisent la photographie, et il est aussi pas très grand, mais ma directrice de thèse, Joyce Sebag, qui était à l'université d'Evry, elle a longtemps milité pour qu'aujourd'hui ses étudiants ils soutiennent des thèses avec un film. Donc je pense aussi, dans le milieu de la photo, il y a beaucoup de gens qui luttent aussi pour faire reconnaître ce médium.
Donc la photo, c'est aussi l'outil. J'ai l'impression qu'il y a une simplification par des gens importables sur eux. Cet outil permet de prendre des photos, de prendre des vidéos. Il y a une reconstruction totale de l'imaginaire autour des images, j'ai l'impression. Dans votre manifeste, vous parlez des réseaux sociaux comme de vitrines de notre propre exploitation. Alors c'est vrai que moi je rajouterais que cette exploitation, elle est souvent non conscientisée, elle peut être souvent auto-centrée et marquée par l'idée de réussite. En tout cas, c'est un peu la vision que je peux en avoir. Est-ce que vous ressentez, vous, cette pression déjà à produire du contenu? Votre position par rapport aux réseaux sociaux, qui est quand même, ça fait partie de l'équation.
Produire du contenu, non. On fait de l'image et parce qu'on aime ça. Ensuite, les réseaux sociaux, chacun y adhère ou non. À titre personnel, Moi, je suis sur Facebook et LinkedIn, et voilà, ça se limite, on va dire, à ça, et parce que je ne vois pas l'intérêt. Je ne suis pas sur Instagram. On dit, ah, t'es pas sur Instagram, c'est pour les photographes. Non, moi, j'en ai. Voilà, c'est pas pour montrer ma photo, mais c'est un autre message, en fait, que j'ai envie de défendre à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est comme une toile d'araignée. Donc, de 7 du centre, ça peut. J'espère que ça se diffuse. Ça se diffuse, et dans d'autres, que ce soit un cadre général comme Facebook ou LinkedIn, c'est-à-dire plus professionnel, et justement toucher d'autres personnes à travers ce prisme-là, quoi.
Oui, je crois que bah, nous, les réseaux sociaux, on les utilise comme on utilise les murs. C'est-à-dire, si on a quelque chose à y mettre et à y dire de pertinent, enfin, ou qu'on trouve, nous, pertinent, on va pas s'en priver non plus. Après tout, ça touche plus de monde. Voilà, il y a des gens... Ben, il s'est beaucoup fait connaître aussi grâce à Facebook. Enfin, je veux dire, sur Toulouse, tout le monde connaît les photographies de Ben Hardcore. Et peut-être pas Ben Hardcore non, lui-même.
Hardcore. Ouais, tu le dis pas très bien.
Moi je dis Benjamin. Ouais. Et du coup, les réseaux sociaux, on a rien contre quand ça peut être un outil politique qui sert à penser. Et dans le manifeste, donc ce qu'on a écrit, c'est-à-dire effectivement aujourd'hui, les réseaux sociaux sont beaucoup utilisés pour mettre en vitrine. Oui, voilà, c'est la vitrine de notre exploitation. C'est l'idée que aujourd'hui, je crois que on commence pas son assiette dans un restaurant avant de l'avoir pris en photo. Les personnes font je ne sais pas combien de selfies par jour. Donc c'est cette image qui n'a pas trop de sens, qui ne pense pas. À la limite, elle c'est intéressant sociologiquement à analyser, mais je veux dire, quand on la produit, elle ne dit rien, elle n'apporte rien là comme ça, si on l'analyse pas de manière sociologique. Et donc voilà, nous on se disait, l'idée du manifeste c'est ça, c'est de dire, puisque vous arrivez à faire des images de votre assiette, de vos pieds sur la plage, allez-y, faites aussi des photos qui nous fassent penser, qui nous fassent réfléchir, qui nous donnent envie d'agir, qui nous donnent envie de vivre le monde.
De rêver, ouais.
Manifesto! Manifeste! Alternative réussie! Manifeste! 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 Manifesto! Manifeste! Manifesto! Manifeste! Manifeste!
Est-ce que vous seriez à l'aise, vous, avec cette mécanique un peu artificielle, en fait, du selfie ? C'est intéressant, parce que je vous imagine mal, en fait, même créer cette situation-là, tu sais. Est-ce que, comment vous pourriez la reproduire si vous deviez l'envisager ?
Moi, j'ai pas beaucoup pratiqué, mais par contre, j'ai beaucoup aimé étudier l'autoportrait, qui était une pratique photographique très intéressante dans les années 80, justement pour montrer. C'est-à-dire, il y a eu des mouvements qui se sont rendus visibles, puisque personne ne les rendait visibles. Hein. Je pense au mouvement homosexuel, le mouvement féministe black, enfin tout ça. L'autoportrait, là, il était intéressant parce qu'il venait se mettre en lumière, parce que personne ne parlait des conditions.
Il y a moins de profusion aussi d'images.
Ouais, voilà, ouais, aussi. Le selfie aujourd'hui, il est sur une autre dimension. Hein, il est sur une image, j'imagine une approche narcissique. Mais par exemple, là, moi qui envisage de faire de l'art thérapie, je me dis que peut-être le selfie aura toute sa puissance réparatrice, ou je sais pas. C'est toujours pareil en fait. Hein, c'est pas forcément mal les choses. C'est juste pourquoi on les fait. Voilà,
moi, je suis plus terre à terre, donc oui, le selfie, ça m'énerve particulièrement. Mais je l'ai pensé. J'en ai fait un. Et c'était en 2014, pendant les émeutes à Athènes. Ah oui. Et pour rigoler, je me suis dit, il y avait des émeutiers derrière, donc ils envoyaient du molotov et ça envoyait du pavé. Et je me suis dit, tiens, je vais me faire moi avec le fond, avec un beau décor derrière. Donc,
En plus, je la vois très bien, je la connais, cette photo.
En noir et blanc, avec le masque à gaz, le casque. Et voilà, c'était, je me suis dit, tiens, On va se faire plaisir, on va rigoler. Je vais faire un selfie une fois dans ma vie.
On n'est pas des adeptes du selfie, quoi.
À quelles conditions une image peut-elle provoquer une prise de conscience? Et est-ce que vous croyez qu'une photo, elle peut changer quelque chose? Elle peut mobiliser?
Oui, je pense qu'il y a des images qui ont quand même percuté des consciences. Et c'est pour ça que la propagande s'en est saisie, puisque quand même, elle doit bien soulever des masses.
Et en général, quand ça fait bouger les choses, c'est quand c'est trop tard pour certaines personnes. C'est les images qui choquent, mais derrière, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont laissé leur vie. Donc, ce serait bien de prendre conscience plus tôt, quoi.
J'ai l'impression que, comme en sociologie, le constat, il vient toujours après, quoi. C'est-à-dire... une critique. Hein.
Justement, la socio souvent est en retard. Par contre, justement, la pratique artistique, elle est plutôt avant-gardiste. Souvent, elle dénonce bien avant les choses, alors sous diverses formes. Et la photo, effectivement... en fait, le photographe, il est rapidement dans la contemporanéité. souvent, le photographe, il est là. C'est sa diffusion qui va être longue. C'est-à-dire qu'un travail... par exemple, il a fait un travail formidable sur Calais il y a 10 ans. Là, on y est retourné, il a refait des images. Peut-être qu'il y aura un livre dans 10 ans plus tard. Donc, ça veut dire qu'entre ce qu'il a pu voir sur Calais, sur le moment T de la jungle, et le jour où sortira son bouquin, et peut-être ça touchera quelques personnes sur leur canapé, il y a 20 ans qui se sera passé. Et donc, la jungle, elle se sera transformée. Les vies seront passées. Donc le photographe, moi je crois qu'il est là. Effectivement, le sociologue, il vient analyser ça plus tard.
La temporalité, elle est indissociable de la photo. C'est preuve que vous faites avec état des lieux, puisque pour un même lieu, il y a trois regards différents qui vont se porter sur plusieurs années différentes. Là, je voulais savoir si c'était simple, en fait, de créer une revue.
C'est très simple, hein, Il y en a, il y a le fanzine aussi qui existe.
Yes,
et puis, il y a tout le dérivé. Et selon comme on le fait nous-mêmes, selon ce qu'on maîtrise, on va faire à la hauteur de ce qu'on maîtrise. Okay.
Voilà. Oui, voilà. Nous, on est dans une approche artisanale donc et expérimentale. C'est-à-dire, personne n'a fait de revue, là, tous les deux, donc on va découvrir ça aussi. Mais a priori, et puis après, on n'a pas de pression. On se l'est autofinancé, et puis on la mettra en vente, ça permettra de financer peut-être les suivants. Mais du coup, ça veut dire qu'on vit ça aussi tranquillement.
Ok. Oui, je vous mets pas plus la pression. Alors.
Juste un truc, parce que ça te plaît beaucoup, Ben Hardcore. J'ai quand même
Hardcore, oui, c'est vrai que t'as pas dit pourquoi.
Je vais quand même t'expliquer pourquoi. Ouais.
Hardcore, je vis hardcore, tu vis hardcore.
C'est 2000, je sais plus combien, 2007, 2008, voilà par là. J'étais dans le milieu, on va dire, des teufs et du. Pas de la techno, non, mais plutôt du hardcore. Et du coup, je faisais aussi des flyers, comme je te disais que j'aimais le graphisme, donc je faisais des flyers pour les soirées,
ouais.
Voilà quoi, donc très artisanal aussi. Et puis je poussais ça un peu, on m'a dit ah, ça c'est hardcore son truc. Et là, donc c'était le début, pareil Facebook, donc 2008, ouais, donc c'est là où j'ai pris le pseudo. J'ai essayé de faire travailler un peu faire un peu travailler pour avoir un pseudo, et bon, tu vois, hardcore, voilà,
ouais,
quoi.
Qui est sorti.
ça s'est imposé à toi, quoi.
Voilà, et puis je gardais ça, et puis parce qu'il n'y a pas de raison.
On veut du hardcore, on veut du hardcore jusqu'à la mort. On veut du
Et donc, simplement pour finir, je voulais savoir ce que vous aimeriez que les gens ressentent, pensent ou fassent après avoir vu une de vos photographies.
Bah, qu'ils en fassent et qu'ils les accrochent sur les murs.
Et qu'ils nous envoient plein de messages sur les réseaux sociaux parce qu'on aime ça quand même.
Ouais, que les gens se mettent à penser, à écrire avec l'image, en tout cas, voilà. Ceux qui n'arrivent pas à le faire peut-être par les mots, qu'ils aient pas peur d'utiliser l'image.
Et qu'ils aillent dans les galeries et qu'ils aillent voir là où elle est.
Ce sera le mot de la fin. Émilie Fernandez-Montoya, Ça te fait toujours marrer quand je dis ça, je sais pas pourquoi. Tu sais que c'est toi. On est bien d'accord, on parle bien de la même personne.
C'est bien moi.
On le refait une dernière fois. Émilie Fernandez, qu'est-ce qui te fait rire? C'est que je lise avec attention ton nom ou c'est ça qui te fait rire, d'accord?
C'est ton inquiétude à te tromper.
Ouais, c'est très bon ça, très bien. Mais t'as vu, pas une seule fois.
Non, bravo.
Et je suis le premier surpris, je t'avouerai. Émilie Fernandez Montoya et Ben Hardcore, bah merci d'être venu à l'émission.
Merci Canal Sud, c'était très sympa.
Merci Germain.
Ouais, grave, à très bientôt. Kendra, merci. Bonne merci continuation Kendra. À toi. Tu représentes le futur en tout cas. Oui. Et le futur, quoi qu'il advienne, nous appartient. Tu le sais ça. À très bientôt.
À bientôt.
Salut, merci bien. Allez, au revoir, merci.
Salut. Un qui sera en librairie, puis un autre qui sera dans un lieu en lien avec le sujet. Donc là, ça va être la rainerie. Okay. Donc voilà, on va trouver l'espace.
Ah, super,
pour,
c'est trop bien. Ouais. Et donc, vous prévoyez déjà donc, des rencontres, ce que tu disais, pour présenter la revue.
C'est ça, j'attends de voir la date. Et à partir de là, on va faire comment on va faire venir Jean-François Richer. C'est ce qui est en...
Ah, mais donc,
non, c'est... Je me suis trompé. Jean-François Joly, pardon. J'aimerais bien revoir son film, par contre,
État
des lieux.
Ouais, voilà, ça, c'est révélateur, parce qu'on en parlait juste avant.
C'est ça. Donc, Jean-François Joly, et donc le faire venir aussi participer à l'événement et
voilà, inviter les photographes. Ouais, voilà.
Moi, j'aimerais bien rencontrer Jean-François Richet, mais de l'époque et de ta délire. Oui. Ouais. Oui.
Je vous le disais en début de ce journal, Jean-François Richet est notre invité ce soir. Il est le réalisateur d'État des lieux qu'on peut voir actuellement au cinéma dans quatre cinémas, hein, quatre salles.
Demain, quatre salles.
Ouais, dont les Champs-Élysées.
Dont Georges V.
Ouais. Ça, c'est une consécration. Ça fait plaisir.
Une salle de plus, ça fait plaisir. Mmh. Maintenant, les Champs-Élysées ou ailleurs.
Ça n'a pas d'importance.
Non.
Avec un financement qui a été difficile à trouver.
Ouais, 150 000 balles.
Ouais. Et que vous avez obtenu, alors, d'une manière, bon, anecdotique, voilà. Mais quand même.
Voilà, on a été au casino avec moi et l'acteur principal et co-scénariste, Patrick Delisola. On a joué notre chômage et on y a été, mais bon, maintenant tout le monde connaît l'histoire, je crois.
Pas vraiment, puis elle est toujours amusante à raconter. Mmh. En plus, c'est vrai que ça devient une légende. En noir et blanc, avec des comédiens peu connus.
Voilà. Il y a des comédiens un peu connus qui jouent dans les téléfilms ou un peu au cinéma, mais tous les mecs de la cité jouent leur propre rôle.
Mais vous, pourquoi vous vous êtes intéressé au cinéma? En fait, vous avez fait un CAP, je crois, d'imprimeur. Vous, ouais, travaillez à l'usine, vous vivez en banlieue, à Meaux. Mmh. C'était un rêve de gamin?
Je me suis dit, c'est quoi le choix quand on est dans une cité? C'est le chômage, l'usine, dealer ou la prison? J'ai choisi de faire un film parce qu'il ne fallait pas de diplôme, donc ça me semblait accessible. Même si c'est 7 ans de galère, je trouve que ça vaut le coup, quoi.
Vous dites souvent que vous êtes un miraculé.
Ouais, miraculé social.
Ouais.
Ouais, je pense que je suis une exception, je ne suis pas un exemple. Parce qu'il y a de la place, il n'y a pas de la place pour tout le monde, donc je pense qu'il y aura encore 2, 3, 4 jeunes qui pourront le faire, mais pas plus.
Qu'est-ce que vous recherchez, vous, personnellement, à travers le cinéma?
Gagner ma vie, payer un appart à ma mère, payer des grecs à mes potes, puis voilà quoi, puis d'en vivre, c'est le but de tout le monde, je crois.
Alors en ce moment, vous tournez un deuxième film.
Ouais.
Ça a été aussi galère pour le monter que le premier?
Ça l'est moins, mais comme le sujet est beaucoup plus ambitieux, le premier film il parle d'un ouvrier, le deuxième film il parle de Lascar, quoi. Donc c'est beaucoup plus dur à gérer.
Là aussi, tourner dans une banlieue qui est la vôtre.
Voilà, Maubeauval, quartier Beauval.
Hardcore, 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 hardc